Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Jean Tellet qui nous accompagne pour un nouveau roman anachronique, bien sûr, et hilarant, c'est du Jean Tellet. Nous visiterons une bibliothèque, celle de la journaliste Lydia Hassen aujourd'hui. Nous partirons à Vaucresson rendre visite à notre libraire, Anne Burzinski. Et c'est Sébastien Bordenave qui éteindra la lumière avec sa chronique bande dessinée, ce qui devrait faire plaisir à Jean Tellet. Mais d'abord, justement, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Journaliste littéraire, ça comporte quelques privilèges quand même. On reçoit les romans en avant-première, ça c'est sympa. Mais on rencontre aussi les écrivains et parmi eux, il y en a des vraiment chouettes, des que tout le monde adore et qui sont aussi gentils qu'ils en ont l'air. C'est le cas de Jean Tellet. Tout le monde pense qu'il est sympa et c'est vrai, c'est toujours un plaisir. Jean Tellet qui s'amuse avec l'histoire, vous savez, il la prend, il la tord dans tous les sens, il la transforme et à la fin, on a un roman et une histoire inédite. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Nicolas.
Rimbaud, le Montespan, Charles IX, l'hystérie collective de Strasbourg et maintenant donc la bataille d'Azincourt. Il vous faut un support historique pour bâtir une histoire. Je suis de mauvaise foi, il y en a d'autres, hein, mais moi directement rattaché à l'histoire, mais quand même, souvent.
Moi j'aime bien aller visiter l'histoire et chercher des perles là-dedans et tout. Et avec Azincourt, là j'ai été servi parce que c'est quand même la bataille la plus bête de l'histoire de l'humanité. Je ne sais même pas s'il y a eu pire, hein. C'est complètement incroyable. Une bataille qui n'avait... il n'y avait aucune raison de la faire.
Ouais, on va y revenir.
C'est invraisemblable.
Mais... comment vous les choisissez parce que les épisodes dans l'histoire, il n'y avait qu'à se baisser. Comment ça se passe? Comment ça marche? Je sais que l'hystérie de collectif de Strasbourg, c'était un journaliste d'ailleurs, voilà, qui vous avait donné l'info.
Exactement.
On vient vous demander, vous dire, attends, tu devrais écrire là-dessus, j'aimerais bien voir comment tu fais.
Souvent, c'est comme ça. Azincourt, ça faisait longtemps que je tournais autour, mais à chaque fois que je lisais des livres d'historiens, pendant 200 pages, ils expliquaient le contexte politique en France et tout. Et puis, il y avait une quinzaine de pages juste seulement sur la bataille. Et après, pendant 200 pages, ils racontaient les conséquences et tout. Je me disais, mais c'est rasoir, je ne peux pas faire ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais faire exactement le contraire. Je vais démarrer mon roman la veille de la bataille, quand les dernières troupes françaises arrivent. Et je vais raconter la bataille du lendemain, évidemment. Et je vais raconter le surlendemain, quand tout le monde s'en va. Et concentrer ça. J'avais envie que les gens aient l'impression d'assister à la bataille, d'être là et de voir comment ça s'organise et comment ça se passe. Et là, ça s'est passé d'une façon vraiment spectaculaire. Et comment ça se termine?
Et oui, parce que on assiste d'abord, on commence par les Français, on arrive, les Français sont là. Donc on est entre Azincourt et la forêt de
Trappecourt.
Et j'ai trouvé ça superbe comme nom de Trappecourt. C'est presque mieux qu'Azincourt, en fait.
Mais en plus,
c'est la forêt. Azincourt, c'est le village juste à côté. C'est un très joli
voilà.
Nom aussi. Mais
et normalement, on donne le nom d'une bataille selon la forteresse la plus proche. Et ça a été Azincourt, donc parce qu'il y avait un petit château, on appelle ça la bataille d'Azincourt. Mais en fait, il y avait aussi un petit château à Trappecourt qui était un peu plus près. Donc normalement, on devrait dire la bataille de Trappecourt. Mmh. Et c'est en tout cas, Azincourt se trouve à 70 km au sud de Calais. Et cette bataille est complètement folle. Et ce qui est marrant, c'est que c'était à une époque où le roi de France était fou. Charles VI était fou, mais fou, malade psychiatrique. Et il avait une particularité, on l'appelait Charles le Fol, il avait une singularité, c'est qu'il croyait qu'il était fabriqué en verre. Ce qui fait qu'il se mettait des attelles sur les bras, sur les jambes, sur les pieds et tout. Et il interdisait qu'on le touche de crainte qu'on le brise.
C'est marrant parce que vous devancez mes questions, c'était pour plus tard, mais c'est pas vrai. C'est que, en fait, Charles VI, le fou, je me suis toujours dit que c'était pour vous. Et quand vous avez publié Charlie IX, sur Charles IX, je me suis dit, en fait, même en lisant la couverture, je me suis dit, ah, enfin, il s'occupe de Charles VI.
Ah, ouais.
Il prend Charles IX. Ok, mais c'était vraiment pour vous, Charles VI.
Ah, ça devait, oui. Ça devait un roi formidable. Un roi que quand il y avait un problème pour la France et qu'on le cherchait en lui disant « Sire, sire », il allait se cacher derrière un rideau de fenêtre et disait « Je ne suis pas le roi de France. Je ne sais même pas où c'est la France. Moi, je m'appelle Georges. » Donc, c'était dire qu'il était vraiment timbré. Et parce qu'il était vraiment timbré, le jeune roi d'Angleterre, Henri V, s'est dit « Le roi de France va pas bien du tout, j'en profitais pour attaquer la France. » Et le 14 août 1415, avec 20 000 hommes, il est arrivé à l'embouchure de la Seine pour prendre Harfleur et après remonter la Seine jusqu'à Paris. C'était son objectif, tuer le roi et envahir la France. Mais ça s'est très mal passé parce que Harfleur, qui était une petite ville fortifiée, a résisté bien plus que prévu. Et puis, comme il pleuvait tout le temps, c'était une fin d'année où il pleuvait en permanence, beaucoup des soldats, presque la moitié de l'armée d'Henri V, est tombé malade et tout, ils sont morts et tout ça. Le 8 octobre, Henri V fait « bon, le coup est planté ». Allez, maintenant, il n'y a plus qu'un truc à faire. On remonte la côte de France le plus vite possible. On va jusqu'à Calais, qui était une ville anglaise. On prend les bateaux et on retourne boire des bières en Angleterre. Et ce qui est marrant, c'est que donc les Anglais sont restés presque 2 mois en France. Et les Français s'en foutaient complètement. Il n'y a aucun problème. Et au moment où les Anglais repartent, tout d'un coup, les Français se réveillent et forment une immense armée qui passe par l'Est et ils redescendent par le Sud pour bloquer le passage aux Anglais, pour les empêcher de rentrer chez eux. Et Henri V, il ne comprenait pas, il disait « Mais c'est quand on est arrivé qu'il fallait nous attaquer, pas au moment où on part, c'est complètement con. »
Et même, juste avant la bataille d'Azincourt, Henri V propose la paix, vous l'expliquez dans le livre.
Exactement.
Il dit « Bon, bah, voilà, on a perdu, laissez-nous partir tranquillement, en échange, je vous rends ça et ça et ça. »
Mais oui, parce que
partir. Et les Français disent non. Mais c'est exactement ça. On a vu notre victoire.
C'est exactement ça. Henri V qui avait fini par prendre Harfleur. Et effectivement, juste avant la bataille, quand il voit l'armée française, on n'avait jamais vu une armée aussi immense. Et effectivement, envoyer un émissaire en lui disant « On vous rend Harfleur, on vous rend Calais, mais juste, vous nous laissez traverser le champ. » Et les Français, mais pas du tout. Ah, mais c'est mal connaître la chevalerie française. Et ils ont voulu la bataille et ça
voilà,
s'est très mal passé.
Azincourt, le 25 octobre 1415. On va faire juste une pause, mais vous en avez parlé. Henri V, on le connaît quand on s'intéresse un peu à l'histoire, mais là, vous l'incarnez, c'est-à-dire qu'il rigole pas du tout.
Ah non, c'était
physiquement
pas marrant,
et dans son comportement.
Exactement.
Il y a une grande balafre, comme ça.
Oui.
Il a fallu un outil spécial pour lui arracher la flèche qui lui avait transpercé la joue.
Ouais. Non, puis c'était vraiment un hargneux. Par exemple, quand il soupçonnait quelqu'un de conspirer contre lui en Angleterre, il allait éplucher des fruits pendant qu'on dépeçait celui sur lequel il avait des doutes. Il était complètement taré. Mais c'est une histoire mais dingue.
Et pour l'instant, il attend sous la pluie, dans la forêt, avec ses 6000 hommes. Et de l'autre côté, pas très loin,
à
900 mètres, il y a les Français, les chevaliers, ils sont 30 000. Et ça donne la bataille d'Azincourt, qui sera une défaite française. Mais on va expliquer ça dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, la voie est libre.
Nicolas Caro.
La voie est libre continue, toujours avec Jean Tellet pour Azincourt, partant de pluie chez Miel et Barreau. Vous êtes toujours avec nous, Jean Tellet, Azincourt, 25 octobre 1415. On a d'un côté les Anglais qui ont proposé de faire une paix et de partir tranquillement, de rentrer chez eux. Ils sont 6000, dont la plupart sont des archers, avec des longs arcs assez nouveaux, on va en parler aussi. Et puis en face, il y a 30 000 Français, dont des chevaliers. Et alors là, on est au sommet de l'arrogance française, en fait. Ça commence le livre, le roman, par les préparatifs. Puis ensuite, on va rentrer dans la bataille. Mais les préparatifs sont assez longs parce qu'ils sont super. On les voit chacun de leur côté. Les Anglais terrifiés, les Français qui font les malins. Et là, on est vraiment au au sommet, à l'apogée de l'arrogance française.
Mais c'est exactement ça. Et la veille de la bataille, les Français font la fête et tout. Il y a de la musique. Ils sont venus avec leurs cuisiniers qui leur préparent des terrines de merde, machin, tout ça. Et ils sont certains qu'ils vont gagner cette bataille. Mais certains. C'est même pas discutable.
Et les Anglais sont certains de perdre aussi.
Et exactement. Et au même moment, alors que les Français sont en train de se saouler la gueule et en train de faire des paris entre eux pour le savoir lequel parmi eux allait capturer Henri V pour, dans quelques jours plus tard, le promener à l'intérieur d'une cage dans les rues de Paris. Ils sont sûrs de... À l'autre bout, à 900 mètres, les Anglais sont dans le silence, pas un son, rien sous la pluie. Ils se disent « Demain, on va tous mourir ». Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé.
Alors ça s'appelle Azincourt par temps de pluie, parce qu'il pleut tout le temps. Mais justement, j'ai été assez bluffé, parce que c'est assez compliqué de rappeler qu'il pleut tout le temps dans un roman. Sauf si on dit bah, « il pleut encore
ouais, ». Ouais.
Et là, c'est des gouttes qui tombent sur les casques, on glisse, il y a de la boue, etc. Par des petites touches comme ça. C'était important, ça, pour vous, de toujours nous ramener à cette humidité, qu'on soit comme eux, un peu détrempés. Quoi.
Ah, mais la pluie a été très importante à la bataille d'Azincourt. Et les Français qui n'ont fait que des conneries pour cette bataille, c'est eux qui ont choisi l'endroit pour faire la bataille. Et ils se sont mis à l'extrémité d'un champ qui était légèrement en pente. Et eux étaient en bas du champ. Et comme il pleuvait à torrents sans arrêt, tout du côté des Anglais qui étaient sur un plateau, la pluie ruisselait le long du champ parce que le champ venait d'être labouré avec les rigoles qui allaient vers le sens de français. Et ça a été tellement important, cette pluie, c'est que le lendemain, au moment de la bataille, les Français qui attendaient que la bataille commence se sont pas rendus compte qu'ils s'enfonçaient dans la boue. Et au moment où ils ont voulu attaquer, mais ils étaient dans la boue à mi-jambe, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus bouger, pouvaient pas avancer, pouvaient plus rien foutre.
Les Anglais les observent au petit matin et disent « Mais je rêve, vous ont reculé ».
Mais exactement.
Mais non, mais ils sont plus petits pourtant, mais c'est qu'en fait ils s'enfoncent.
C'est qu'en fait ils s'enfonçaient, c'était incroyable. Et tous les Français, les nobles Français ont voulu être en première ligne.
Mmh. Et se battent pour être en
voilà.
première ligne.
Voilà, et ça aussi c'était une bêtise. Parce que s'ils avaient fait ça normalement, non, dans une bataille comme ça, normalement on met les arbalétriers devant, et en plus les Français avaient des canons. Et les arbalètes projettent leurs carreaux, on n'appelle pas ça des flèches pour les arbalètes, mais beaucoup plus loin. Ce qui fait que si la bataille avait été normale, les Français avaient 3000 arbalétriers, ils tiraient tous ensemble à l'arbalète, on faisait mouche. Mmh. Ils balançaient les plombées de boulets sur les Anglais. En un quart d'heure,
terminé.
C'était réglé. Mais les Français ont dit « Non, mais pas du tout, on ne va pas utiliser nos canons parce que les Anglais ont laissé les leurs à Harfleur, ce ne serait pas très chevaleresque. » Et puis, ils n'ont pas voulu que les arbalétriers soient devant en disant « On ne va quand même pas laisser cette victoire à des ouvriers. » Non, c'est la chevalerie qui est habilitée pour
avec
se battre.
Avec les grandes bannières qui vont avec les chevaliers et qui bloquent la vue des autres
mais
derrière.
Exactement.
On ne voit rien.
Parce qu'ils étaient tous entassés comme des harengs dans un tonneau sur 10 lignes, les Français. Et avec, effectivement, ils avaient tous leurs bannières, leurs étendards qui passaient devant la tête. Ils voyaient que dalle.
D'autant qu'on est dans un goulot d'étranglement. Il y a des cartes dans le roman, ça j'adore. Ouais. Des cartes qui montrent où sont les Anglais, où sont les Français, où est la forêt, etc. Et c'est vraiment... Ouais, c'est un goulot d'étranglement avec d'un côté les Français qui ne bougent pas parce qu'ils sont coincés. Puis de l'autre côté, les archers dont la seule difficulté est de pouvoir avancer pour tirer et qui avancent très tranquillement, parce que les Français, de toute façon, ne réagissent pas. Il y a une personne qui leur dit aux Français, c'est Fleur de Lys.
Moi, je l'adore. C'est
Fleur
la seule personne que j'adore.
Fleur de Lys se balade comme ça dans ce roman.
Ouais.
Qui est Fleur de Lys et est-ce qu'elle a existé? Elle est incroyable.
C'est une petite pute à soldat et c'est la seule...
Vous le dites comme ça dans le roman.
Oui, c'est la seule pute à soldat dont on connaît pas le nom, mais le surnom qui a vraiment existé, qui était un porte-bonheur pour l'armée française quand elle était là.
C'est raconté avec beaucoup de légèreté, mais c'est terrible. Hein. Son statut, c'est l'horreur.
Ah bah oui.
Et sa grand-mère l'était et sa mère l'était.
Exactement. Exactement. Elles étaient putains soldats de mère en fille. Et elle est la seule qui a du bon sens, qui repère tout. Par exemple, quand elle est arrivée, elle demande à un grand seigneur Mais au fait, c'est pourquoi cette bataille? Et le grand seigneur dit, on veut empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Et elle leur dit, vous préféreriez qu'ils restent en France? Oh, tu comprends rien, la chevalerie, tu viens plutôt par là et tout ça. Et elle repère tout. À un moment, elle leur dit, écoutez, les chevaux ne hennissent pas. Et ça, on disait que dans une bataille au Moyen-Âge, quand la veille d'une bataille, les chevaux ne hennissaient pas, c'est que quelque chose allait mal se passer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et elle repère tout. Mais tout le monde se fout d'elle. Et alors qu'il n'y a que de la noblesse, là, à Azincourt, en fait, Fleur de Lys est la seule personne qui a vraiment de la noblesse.
Elle leur propose aussi d'attaquer pendant que les Anglais ne sont pas prêts dans la nuit. Et là, on lui dit que ce ne serait pas chevaleresque.
Mais voilà, pareil.
Mais en fait, ce côté chevaleresque qui pourrait être très beau, c'est et souvent en fait une excuse pour pouvoir avoir sa bataille et s'illustrer plutôt que de gagner, simplement.
Mais oui,
quoi.
Et d'habitude, les Français, quand ils faisaient une bataille, c'était un terrain découvert. Mais là, ils ont voulu que ça soit coincé entre deux forêts, parce qu'ils disaient qu'une bataille en champ clos, c'était la guerre par excellence. Enfin, comme ils étaient tellement entassés, on n'en revient pas tellement, ils ont été bêtes, les Français. Ils étaient tellement entassés les uns contre les autres, comme ça, qu'au moment où ils ont voulu lancer la bataille, déjà ils ne pouvaient plus bouger, mais ils ne pouvaient même pas sortir leurs épées, parce qu'ils étaient coincés les uns contre les autres. Et quand ils se sont préparés, ils ont fait aussi une connerie, mais phénoménale, c'est qu'ils avaient tous des lances de 4 mètres. Mais comme ils étaient tous tassés les uns contre les autres, tout le monde se prenait les lances dans le cul et tout, ils disaient, c'est pas possible, elles sont trop longues ces lances.
Ça donne des moments épiques dans le roman,
oui,
d'ailleurs.
Ils ont décidé de les couper en deux. Mais alors au moment où il y a eu la bataille des lanciers, les Français qui allaient avec des lances de 2 mètres pour piquer les Anglais qui étaient en face, les Anglais avaient des lances de 4 mètres. Donc ils étaient encore à 2 mètres des Anglais qu'ils étaient déjà tous transpercés. Mais on a l'impression qu'un enfant de 5 ans n'aurait pas organisé cette bataille comme ça. Et d'ailleurs, à un moment, il y a eu un noble qui a dit « Si ça avait été le roi de France qui avait mené cette bataille, ça n'aurait pas été plus fou. Tout a été fait à l'envers. »
Vous entendez, Jean ? C'est Henri V qui appelle ses archers. On se met en place et on observe ça dans un instant.
D'accord.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre, toujours avec Jean Tellet pour Azincourt, par temps de pluie, son nouveau roman génial. On était dans les préparatifs de la bataille d'Azincourt, entre les Français d'un côté qui se la jouent et qui en fait sont en train de s'embourber, puis de l'autre les Anglais qui sont un peu terrifiés mais qui vont faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, ce sont des archers très particuliers,
oui.
Des longbowmen qui sont en fait des archers, oui, avec des arcs très très longs.
C'était
comme ça.
Des nouveaux arcs gallois qui étaient beaucoup plus longs que les arcs traditionnels qui étaient turcs et arrondis. Il fallait une force herculéenne pour tirer des flèches avec ce truc-là, mais les flèches partaient beaucoup plus loin.
Et contrairement aux Français, les Anglais n'ont pas fait la fête, n'ont pas fait n'importe quoi, et par exemple, ils n'ont pas laissé leur fil de chanvre sous la pluie pour qu'il soit sec pendant
exactement.
La bataille.
Pour pas qu'ils prennent l'humidité, ils en ont pris soin de les fils des arcs. Alors que les Français, eux, avaient toutes leurs arbalètes qui étaient posées sur des chariots sous la pluie diluvienne. Et quand le lendemain, ils ont voulu tirer avec, les cordes étaient complètement distendues par la pluie et les carreaux faisaient plouf et tombaient à 1,50 m. Et donc, n'ont servi à rien. C'est tellement hallucinant la bêtise quand c'est poussé à ce point-là. Et ça a été une bataille terrible parce que toute la noblesse a été décimée au moment de la bataille. En 3 heures. Toute la noblesse, 6 000 morts. Et après, on parlait tout à l'heure d'Henri V qui n'était pas un tendre. Henri V a ordonné à ses archers, quand la bataille était finie, de détruire à coups de maillet tous les visages des nobles, de sorte que plus personne puisse les reconnaître, même leur famille. Les archers anglais, quand ils enlevaient les casques des nobles morts pour les défoncer à coups de maillet, du coup, ils sont mis à mettre leurs casques et tout, et à leur piquer leurs armures. Et puis, après, quand ils sont partis, c'est les paysans du coin qui venaient ramasser les caleçons, les chemises des nobles pour s'en habiller. Les hommes ramassaient tous les pointes de flèches, les armes et tout, pour en faire du matériel de forgeron. Et tous les nobles se sont retrouvés dans trois immenses fosses communes enterrées en vrac. Et la chevalerie a totalement disparu. Alors en trois heures.
C'est ça ce qui est bien quand on vous lit, c'est qu'on se dit que tout est vrai, même, surtout, le plus extraordinaire.
Mais
et
ouais.
Alors, il y a un moment où les archers avancent tout doucement pour aller au combat, mais avant ça, ils mettent un genou à terre et ils avalent une poignée de terre.
Exactement.
C'est vrai, ça,
ouais,
j'imagine.
Absolument. Et pour signifier que eh ben, ils allaient tenter le coup et qu'ils savaient qu'ils pouvaient finir sous terre, aller à la mort. Et quand ils ont vu à l'aube le matin, qu'ils ont vu cette gigantesque armée française qui était comme une énorme barre d'acier et tout, qui allait d'une forêt à une autre, ils se sont dit, bon ben, on voit la fin, le début du jour, on n'en verra pas la fin. Le simple souffle de... si simplement ils soufflent sur nous, les Français, la force de leur souffle va nous renverser et tout. Et en fait, c'est eux qui ont torché les Français. Et comment ?
Alors, il est question souvent dans le roman du manuscrit de l'arbre des batailles.
Ouais.
C'est quoi ?
Ça, alors, l'arbre des batailles, c'était la Bible de chevalerie. On expliquait comment devait se passer une bataille. Et les Français ont pris ça exactement à la lettre et tout. Sauf que les temps avaient changé et qu'un mec comme Henri V, lui, il s'emmerdait pas avec les règles de la chevalerie. Il disait, et c'est comme ça que j'ai appris que ça existait déjà, qu'il était pas là pour une partie de cricket. Et les Français étaient englués à la fois dans le sol, mais aussi englués dans les traditions de la chevalerie. Par exemple, disait, les Français ne doivent jamais lancer une bataille. Parce que quand un camp lance une bataille, c'est le camp en question qui la perd. Et ce qui fait qu'ils ont attendu que les Anglais s'approchent et ils ne voulaient pas bouger. Et puis total, et ben, ils se sont fait torcher.
Justement, on lui dit à Henri V, attention, les Français vont peut-être attaquer. Henri V dit non, ils ne feront pas. C'est pas conforme pour eux à l'art de la guerre.
Exactement.
Le mec lui dit, les temps changent, sire. Oui, mais pas la chevalerie française.
Ouais.
À la fois, bon, on a perdu, mais c'est quand même assez beau, finalement, de se dire que les types, voilà, d'abord, ils se mettent en première ligne. OK, c'est pour se la jouer, mais quand même, c'est dangereux. Ouais. La chevalerie française, il y a un truc qui reste dans le temps et qui est aussi un respect de ces traditions-là,
ouais,
qui était assez beau.
Mais quelle connerie,
ouais,
oui, c'est surtout
mais...
très con. Hein. Et les Anglais, eux, ils avaient fait
c'est
ça.
C'est aussi pour ça que c'est resté, peut-être, le mythe.
Oui. Et à ce propos, quand j'ai fini le livre, j'ai appris qu'en Angleterre, en ce moment, ils sont en train de construire un sous-marin nucléaire qu'ils vont appeler comment ?
Azincourt. Allez, salaud.
Non, mais quand même, le foutage de gueule des Français. Les Anglais peuvent être marrants.
Alors, justement, sur la question du langage, parce que donc, on est au XVe siècle. Alors, évidemment, c'est Jean Tellet, donc il y a parfois du langage un peu moderne,
des
comme ça, qui se mêle à l'histoire, des anachronismes. Mais comment vous avez réglé cette question ? Parce que parfois, il y a aussi carrément de l'ancien français.
Oui, je voulais que ça soit un petit peu entre les deux, qu'à la fois on entende cette langue de l'époque, mais en même temps, c'est à des gens d'aujourd'hui que je m'adresse. Donc, parler aussi comme je parle, à ma façon. Ouais, bien.
Et comment ça marche ? Vous y allez comme ça, vous faites comme vous le sentez. Et après, vous discutez avec votre éditrice de comment on règle ça, si
non,
on met plus ou
non,
moins...
Non, je me débrouille tout seul, ouais, je fais une alternance. Et puis...
Et vous le dites à voix haute ?
Oui, toujours. Moi quand j'écris deux, trois phrases, je me les lis à voix haute. Et si je bute sur un mot, si j'ai du mal à trouver ma respiration pour finir la phrase, c'est que la phrase ne va pas. Il faut que la phrase à l'oreille fonctionne.
Il faut que ça coule. Juste un dernier mot. Normalement, cette partie, elle était consacrée à la cuisine, aux coulisses. Mais il ne nous reste plus qu'une minute parce que j'ai voulu continuer sur le roman. Juste en deux mots, comment vous écrivez ? Dans quelle pièce ? Est-ce que c'est le bureau qu'on avait visité
quand on est allé
voir votre bibliothèque ?
Oui. En bas de chez moi, dans une arrière-cour, il y a un tout petit bureau où il n'y a rien. il n'y a rien dedans, et que je veux que ça soit comme une cellule de moine.
Il y a un tableau blanc.
Ouais, il y a un tableau blanc, et quand j'écris, je me dis, c'est un métier, donc tu fais ça comme un métier, et j'écris de 10h à 19h tous les jours, je m'arrête juste une demi-heure, trois quarts d'heure pour déjeuner, et je ne prends pas un jour de vacances, pas un jour de week-end, tout le temps que le livre n'est pas terminé.
En moyenne, combien de temps ?
Ça dépend, minimum un an, entre un an et deux ans quand c'est des livres comme Crénon Baudelaire, le précédent, et ce qui fait que quand j'ai fini un livre, pendant six mois, je peux pas prendre un crayon pour écrire la moindre phrase.
Restez avec nous Jean, dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Lilia Hassen, à tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour. Lilia Hassen a publié Soleil amer chez Gallimard lors de la dernière rentrée littéraire. Je me demandais de quel livre se chauffait la journaliste de Quotidien. Alors je suis allé voir. Bonjour Lilia Hassen.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. Beaucoup de livres. Il y a un piano aussi. Vous savez qu'il y a une tradition quand même dans ces visites de bibliothèque, c'est quand on voit un piano. En général, on demande un petit morceau.
Ah oui, tout à l'heure.
Merci, c'est gentil.
Tout à l'heure, un petit peu.
Et puis donc là, on est dans votre salon. Il y a beaucoup de livres, mais c'est un petit appartement parisien, donc ils sont tous entassés. Il y a des poches avec des doubles rangées, c'est-à-dire qu'il faut enlever les livres de la première rangée pour retrouver ceux qui sont derrière.
Mais je sais où ils sont.
C'est ça, c'était la question que j'allais vous poser. Mais surtout avant, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de livres que vous avez laissés chez vos parents. En Normandie.
Bah oui, ils ont un peu plus
de
place.
Comment vous avez fait le tri ?
Ils ont un peu plus de place. Et j'en ai chez ma sœur, parce que ma sœur vit dans mon ancien appartement, donc j'avais laissé des livres. Et j'ai laissé pas mal de bouquins aussi chez mes parents, notamment tous les classiques. La plupart des classiques sont chez eux. Il me semble qu'il y a aussi un de mes livres préférés, Le métier de vivre, que je n'ai pas retrouvé ici, de Césarée Pavèze. Et c'est dommage.
Pourquoi c'est votre livre préféré ?
Parce que c'est un peu du surant, je trouve. Et lui, il a un parcours particulier. Il s'était engagé dans le fascisme avant de devenir communiste, avant de se suicider. Il y a beaucoup de suicidés dans ma bibliothèque. et son livre se termine par une phrase où il explique qu'il n'écrira plus. Et c'est son journal intime qui a été retrouvé à titre posthume. Et donc, c'est plein de petites sentences, de petites phrases très, très fortes, parfois un peu misogynes, parfois, c'est pas du tout bien pensant, comme on dit. Mais je les trouve formidables. Je trouve formidables toutes ces petites phrases.
Il y a beaucoup de Gallimard Collection Blanche, qui est votre maison d'édition et votre collection. Vous en piquez là-bas quand vous passez ? Vous avez vos collègues écrivains qui vous en donnent sans arrêt ? Comment vous faites le tri ?
Alors, effectivement, j'en reçois plus que d'autres, que des autres maisons d'édition. Mais par exemple, il y a beaucoup de Proust. Donc, en fait, j'ai en double toute la recherche. Donc, c'est aussi un effet.
Et oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je rêve, c'est une édition originale de La Recherche, Un amour de Swann.
Ouais, mais pour moi c'est le plus beau passage de La Recherche.
Et donc c'est le début. Hein.
Et c'est dans le premier livre. Et j'ai pas surligné ou souligné celui-ci parce que j'aime bien souligner les livres comme papier. C'est une édition de 1919, ouais, magnifique, numérotée en plus.
Et comment vous avez trouvé ça ?
C'est un cadeau qu'on m'a fait.
Waouh.
Quelqu'un qui était amoureux, visiblement.
Vous l'avez lu ou pas ?
Ah, bien sûr, je l'ai lu.
Dans cette édition, je veux dire.
Ah, ouais, je l'ai lu dans cette édition.
Ou est-ce que vous avez dit, non, je peux pas toucher surtout, ça, c'est trop fragile ?
Non, en revanche, pour les notes.
Quand même, vous n'avez pas annoté l'édition originale ?
Celui qui a annoté, c'est celui-ci, qui est annoté, en tout cas souligné par endroit. Et c'est mes passages préférés.
Ah oui, vous avez la réédition grand format, parce que Gallimard a réédité La Recherche.
Ouais, vraiment une fétichiste. Cette phrase magnifique, les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'entre eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers, il s'entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. La plus belle définition de l'amour, je crois.
Alors, c'est vrai qu'on croise beaucoup Proust, faut dire, dans les bibliothèques qu'on visite, mais chacun un peu ça a une raison différente de l'aimer. Vous, c'est pourquoi ? Parce que souvent, alors il y a toujours, j'ai eu l'impression qu'il avait écrit pour moi, mais est-ce qu'il y a autre chose ?
Non, moi, c'est beaucoup plus pédant que ça, c'est que vraiment, il m'a donné envie d'écrire. En fait, pour des raisons différentes, il se permet tout. Proust, il se permet tout, mais dans une espèce d'exigence formelle, des descriptions très. Il y a vraiment une voix qui berce énormément, je trouve qu'il y a un rythme une lenteur qui apaise. Et souvent, après avoir lu Proust, je prends beaucoup plus le temps d'écrire. On s'autorise des phrases plus poétiques.
Mais ça peut intimider aussi, en se disant, bon, oui, c'est même pas la peine drôle. D'essayer.
Non, mais il est très drôle et tout n'est pas... moi, j'ai sauté beaucoup de passages dans la recherche, comme plein de gens. Il y a des descriptions qui sont beaucoup trop longues aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est Zweig qui disait ça, qu'on aurait pu enlever effectivement un quart de la recherche et que c'était pas si grave. Et je pense qu'il faut pas hésiter parfois à couper... à pas tout lire d'une œuvre, enfin c'est pas un problème. Et par exemple, Un amour de Swann, c'est un chapitre, et c'est celui que je relis le plus.
Est-ce que vous lisez Proust avant d'écrire, c'est-à-dire pour vous remettre dans une sorte d'ambiance d'écriture ou...
C'est exactement ça. C'est des moments où je suis un peu prise par mon travail, par un rythme un peu frénétique. Le fait de lire Proust, en fait, c'est vraiment un autre monde. Hein. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léché. Il s'autorise des petites piques d'humour, mais en même temps avec une écriture qui il se permet des digressions. Donc en fait, c'est un autre rythme. Et effectivement, pour écrire, c'est assez utile. Et en plus, c'est comme il est quasiment impossible à plagier, sinon ce serait ridicule.
Ça se verrait tout de suite.
Pas, voilà. Donc c'est bien pratique.
D'ailleurs, ça se voit parfois pour certains. Alors, vous avez encore un trésor là. C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen dans une vieille édition. Alors, même question. Pourquoi Belle du Seigneur, qu'on croise aussi parfois, pas toujours.
Ah bon ?
C'est très, très souvent dans les bibliothèques. Mais là, elle est vraiment mise en valeur, cette édition. Enfin, je veux dire,
oui, surtout, c'est pareil, je l'ai en deux exemplaires.
Voilà, c'est ce que j'ai vu. Pourquoi Belle du Seigneur ? Est-ce que vous nous rappelleriez l'idée de Belle du Seigneur ? Et pourquoi ça vous a plu à vous ?
L'idée de Belle du Seigneur, c'est une jeune femme, Ariane, qui prend beaucoup de bains, surtout au début de Belle du Seigneur, qui s'ennuie, qui est mariée à un homme qui est un fonctionnaire, je me souviens, un système de notation très, très précise, et qui va tomber folle amoureuse d'un jeune homme qui, au début, s'introduit dans sa chambre par surprise. Donc c'est tout un jeu sur l'amour, on ne sait pas très bien dans quelle époque on se trouve. Et moi, c'est un des premiers grands romans que j'ai lus. En tout cas, je l'ai lu, j'étais au collège. Et je trouve,
vous n'étiez pas découragée, parce que ça fait 1000 pages, Belle du Seigneur. Donc, il faut se lancer quand même.
Je n'ai pas pu lâcher, en fait, c'est pareil. Je trouve qu'un peu comme pour Proust, il y a énormément d'humour, j'ai beaucoup ri. Le début est un peu long. Je trouve toujours le début assez long. La première page est magnifique.
Vous nous liriez l'incipit, la première phrase ?
Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi de deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À deux reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Et c'est marrant parce que c'est le moment où vraiment Solal est déterminé à aller chez Ariane et il arrive déguisé en vieillard. Évidemment, elle le repousse à cause de sa laideur. Et il lui dit qu'il la séduira en la traitant, je ne sais plus, de chienne ou je ne sais plus l'expression. Donc c'est assez violent. Et en même temps, je trouve que c'est très, très juste sur le sentiment amoureux.
Et il y a beaucoup de gamins qui sont appelés Solal à cause de Belle du Seigneur, d'ailleurs.
Oui, c'est très à la mode.
Et alors, c'est aussi un livre, un roman qu'on cite sans arrêt dès qu'il est question de passion. Parce que bon, ça dépend comment on le lit, mais il y a une certaine manière, le message, s'il y en a un, c'est de dire que la passion passe et qu'il faut l'accepter ou pas. Mais enfin, c'est un peu une description des rapports amoureux.
Oui, et en même temps, quand on lit, c'est parce qu'on cherche une forme de passion, une forme d'idéal aussi en amour. Donc, la passion passe, en même temps, on la cherche tout le temps. Et c'est le principe de l'amour, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'adolescente, avoir lu Belle du Seigneur, je m'identifiais à cette idiote d'Ariane avec le recul. Je me dis, bon, c'était un peu ridicule. Mais je m'étais attachée à tous les personnages dans leur ridicule.
Est-ce que vous avez été victime à un moment ou à un autre, parce qu'en vous entendant dire que vous avez lu Belle du Seigneur au collège, de bovarisme, ou en tout cas d'avoir tellement lu tôt que vous voyez la vie par les romans, quoi, et que du coup, il y a une sorte d'irréalité dans la réalité qui se crée?
C'est un peu le risque. Après, on vit des histoires d'amour et on apprend très vite que les romans sont des romans. Cependant, je pense que le fait de lire, ça nous force aussi, ça nous oblige aussi à réinventer aussi en permanence ces histoires d'amour et à ne pas se satisfaire d'une relation parfois qui pourrait s'empâter dans la vie quotidienne. et s'obliger à être un peu surprenant, à avoir des idées. On s'est pas interdit d'être créatif et inventif en amour aussi. Et pour le coup, c'est vraiment l'inverse du bovarisme, c'est-à-dire qu'il y a pas de, sentiment comme ça, de flegme. C'est plus un encouragement justement à faire pour renouveler en permanence ce sentiment.
Vivre pour expérimenter, quoi, plutôt que de vivre uniquement dans les romans.
Exactement. Vivre dans les romans, c'est une chose. On apprend énormément. Moi, j'ai beaucoup appris, notamment Goethe, c'est pareil, qui est dans ma bibliothèque. Voilà, bon, j'ai beaucoup de suicidés, comme je le disais. Donc, j'ai appris très vite que l'amour pouvait faire très, très mal. Et en même temps, c'est des avertissements aussi.
Alors là, très belle pièce aussi.
À l'alcool, oui.
C'est un manuscrit des éditions des Saint-Pères qu'on adore dans La Voix et Livre. Et alors là, c'est Alcool, donc les poèmes d'Apollinaire.
Ouais, bah
c'est un gros volume des éditions des Saint-Pères, donc c'est des manuscrits facsimilés, donc la copie parfaite. Pourquoi vous avez choisi celui-là? On vous l'a offert
On me l'a offert, mais pas par hasard.
Apollinaire, d'accord.
Oui, mais c'est pas par hasard, c'est pareil. J'ai une autre édition qui est magnifique, et je la retrouve... je crois que je les sors.
Vous avez toujours des livres en double, en fait.
Ceux que j'aime, en fait, en plus, je les offre.
Vous êtes fétichiste un peu ?
J'aime bien les livres. Moi, je suis pas fétichiste de l'objet parce que je gribouille beaucoup sur les livres, mais quand j'aime certains livres, c'est vrai qu'on a tendance à me les offrir en plus. Et là, ces éditions sont magnifiques aussi d'Apollinaire, avec des dessins. Enfin, je pense en 3 ou 4 exemplaires.
Et donc là, il y a des poèmes. Manuscrits, puis d'autres, c'est des épreuves avec les corrections manuscrites.
En fait, ce qui est génial, c'est qu'on se rend encore plus compte sur la, par rapport
travail,
à...
quoi.
Oui, puis même l'absence de ponctuation, en fait.
Il a une écriture un peu d'écolier, je trouve.
C'est ça.
J'ai vu le pont Mirabeau qui passait.
La chanson du mal-aimé. C'est fou, je trouve que c'est d'une modernité incroyable. C'est des poèmes où il parle de la fée électricité, où il parle des voitures, des premières automobiles, de l'aviation, des débuts de l'aviation. J'aime beaucoup Apollinaire.
On est au tout début 20e.
Oui, tout début 20e.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Et ouais, alors on est passé de les mains dans les mains, restons face à face, à tes mains dans les mains, restons face à face. Il a remplacé le T par le lait. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas.
Ouais, carrément une étude comparée, quoi. Mais est-ce qu'il y aura des manuscrits de Lilia Hassen ou est-ce que vous écrivez tout sur ordinateur?
J'écris dans quelques carnets que j'ai pas ici.
Que vous avez dans la poche au cas où?
Et j'ai quand même quelques carnets aussi. Des manuscrits, non, j'écris quand même beaucoup par ordinateur.
Et vous avez une revue étrange là, Citadelle.
Alors ça c'est
Citade apostrophe E2LES.
Ben ça va leur faire plaisir. C'est les détenus de la prison de Rennes. Donc, c'est des détenus femmes, puisque c'est une des rares prisons pour femmes en France. Et elle publie, un magazine qui est trimestriel, il me semble. Été, hiver, qui est formidable.
Mais c'est un magazine de littérature.
Et c'est un magazine, elles abordent tous les sujets sur la prison. Elles abordent des sujets de santé, vraiment tous les sujets. C'est extrêmement bien fait.
Et vous en avez plein, vous êtes abonné?
Non, je suis allée les voir et elles m'ont offert ce magazine. J'ai passé plus de 2 heures avec elles. On a parlé de mon roman et elles étaient extrêmement intéressées. Et en fait, c'est devenu une conversation. Puis je les ai trouvées très touchantes parce qu'on a une représentation des détenues femmes ça peut faire un peu peur. Et en fait, je me suis trouvée face à des femmes très jeunes. Certaines avaient 18-19 ans, elles n'étaient pas forcément là pour des très longues peines, certaines oui, mais en fait elles sont quand même mélangées, peu importe leur histoire, et il y en avait une notamment qui était là depuis une semaine, donc on se demande toujours, on se dit mais en fait on n'est jamais très très loin de passer de l'autre côté, et typiquement quand on écrit des romans c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de frontière entre ce qu'on peut faire et le point de bascule. Et en fait, on se rend compte que parfois, ça ne suffit de pas grand-chose, des mauvaises rencontres. Donc, c'était très touchant.
Dans le genre écrivain qui libère, vous avez déjà abordé Jean Echenoz. Mais j'en ai vu quelques-uns, effectivement. Vous le connaissez, Jean Echenoz? Vous l'avez déjà rencontré dans des salons et tout ça?
Je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'aime beaucoup Jean Echenoz.
Et pourquoi?
Je trouve qu'il a des formules. Typiquement, chez Rocky, c'est vraiment une parodie de roman noir. Il y a des mots comme crocognant qui veulent rien dire. Il se permet tout. Et vraiment, quand j'ai lu chez Rocky, je me suis dit, bon, en fait, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Il n'y a pas de frein en littérature. On peut inventer des situations abracadabrantesques. Il n'y a vraiment aucune limite. À un moment, il compare un homme à un petit déjeuner. Il dit qu'il avait une allure de petit déjeuner avec sa chemise en tergale chocolat et sa cravate couleur crème. Et je trouve ça extrêmement drôle d'oser dire ça.
Beaucoup de romanciers américains aussi. Alors, il y a Truman Capote de sang-froid, mais il y a aussi Jim McInerney et Bret Easton Ellis qui sont des copains en fait. Bret Easton Ellis, c'est American Psycho. Jim McInerney, c'est 30 ans et des poussières. Et ça s'appelait le Brat Pack à l'époque. C'était carrément un groupement littéraire. Enfin, une sorte de formation comme ça, de génération. Ils étaient 4 ou 5. Où c'était les écrivains new-yorkais, etc., ou américains, qui avaient lancé une sorte de mouvement. On a moins ça aujourd'hui.
Ah bah c'est une sorte de critique aussi sociétale à chaque fois. Enfin, Bret Easton Ellis, sa manière de dépeindre Los Angeles, de dépeindre ses dîners où les gamines sont déguisées en Miss France, enfin en Miss USA, c'est pareil. Il plonge dans un milieu. C'est ce que les Américains savent très bien faire quand même, c'est dépeindre leurs contemporains. Avec une plume très aiguisée, qui est souvent dure, mais très amusante. Et c'est un peu leur point commun à tous. Mais on pourrait même mettre Philip Ross dans cette catégorie, même si lui, c'était beaucoup sur sa famille et la communauté juive en général. Mais Bret Easton Ellis, typiquement Lunar Park, ça commence comme un thriller. Et puis, on se rend compte très vite qu'en fait, c'est un mélange de tous ses autres livres. C'est pareil, il se permet ça. Et pour aboutir à une chute qui est hallucinante. Et donc voilà, c'est des délires. Ils prennent tous sans doute beaucoup de drogue, mais mais c'est pareil, c'est des moments de liberté. En tout cas, Bret Easton Ellis, je l'ai beaucoup lu dans l'avion. À un moment, je partais en vacances et je conseille pour les voyages.
Et puis alors, évidemment, je vois un Rimbaud, une saison en enfer et Illumination. Et je le sors parce que en exergue de votre roman, et le titre d'ailleurs est un extrait
d'un livre. Mon livre s'appelle Soleil amer et c'est effectivement un extrait du Bateau ivre. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer.
Il a bien vécu le livre là aussi. Hein.
Oui. Mes poches, je les ai beaucoup trimballées. Les souffrances du jeune. Ça aussi, Goethe, je l'ai lu très jeune.
Les souffrances du jeune Werther.
Oui, j'ai lu très jeune.
C'est très triste ça.
Oui, ça m'a.
Ça vous a pas
ça m'a vacciné un petit peu de plein de choses.
De la mélancolie.
Ça m'a pas vacciné de la mélancolie parce que je trouvais que c'était sublime, comme Musset. Je trouve, c'est des auteurs qui sont sublimes dans cette veine-là, justement un peu fin de siècle, côté fin d'un monde. Et je trouve ça très touchant parce qu'on traverse un peu cette période aussi.
Il y a les confessions d'un enfant. Voilà,
ça, je l'ai en 3 exemplaires aussi.
Ah bon, mais pourquoi?
Parce que je l'ai offert beaucoup. Il y a mes livres préférés, les livres de Zweig, notamment La Pitié dangereuse, Tchekhov, Une plaisanterie, c'est merveilleux. C'est des livres que j'offre tout le temps. Une plaisanterie, rien que la première, cette nouvelle, elle est incroyable. C'est une partie de Luge.
Vous nous racontez ?
C'est une jeune fille qui s'appelle Nadienka, qui a très très peur de faire de la Luge, parce qu'elle a peur du vide. Et le narrateur lui propose d'en faire avec lui. Elle se lance, mais elle s'accroche, elle a très peur. Et il lui murmure « Je vous aime, Nadienka », pendant qu'ils descendent. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas si c'est lui ou si c'est le vent qui murmure cette phrase. Et donc, même si elle a très peur, elle se force à remonter sur cette luge une deuxième fois avec lui pour voir si elle entend, si elle l'entendra à nouveau cette phrase qui lui a plu. Et elle l'entend, mais elle ne sait toujours pas si c'est lui ou si c'est le vent. Et donc, elle s'élance toute seule, un autre jour. Et elle n'arrive pas à savoir, le printemps arrive, etc. Et je ne vais pas raconter la chute.
Ah oui, non, c'est ce que j'allais vous arrêter.
Parce que la chute est très cruelle et très, donc très drôle. Mais c'est vraiment une chute de luge, on peut le dire.
Et alors, chez Musset, je vois qu'il est là aussi. Il y a « On ne badine pas avec l'amour ». Et il y a un passage magnifique qui est très connu. Vous nous lisez l'extrait.
Passage de l'acte 2, scène 5. « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
Incroyable.
C'est sublime. C'est magnifique. Pareil, c'est un des plus beaux passages sur l'amour. Il faut accepter de se planter, de faire des erreurs, de souffrir. Parce que voilà, on en sort quand même beaucoup plus riche, notamment pour écrire.
Merci beaucoup, Lilia Hassen.
Merci à vous.
Vous croyez que je vais oublier qu'il y a le piano dans le salon? On peut se quitter là-dessus,
oui,
peut-être?
Oui,
vous nous jouez un petit truc?
Un petit bout, ouais.
Ah, super, merci
très
beaucoup.
Très bien.
On vous écoute.
Un concerto de Mozart.
De retour à Europe 1, je rappelle Soleil amer, c'est le titre du dernier roman de Lilia Hassen chez Gallimard. Jean Tellet, vous êtes toujours avec nous. Azincourt partant de pluie, c'est le vôtre de roman. Je ne vous demande pas comment est rangée votre bibliothèque, puisqu'on était venu vous voir.
Ouais, elle est bien rangée, elle est vide.
Magnifique, avec des pléiades stabilotées. Quelle horreur. Eh bien, on va la remplir, justement, cette bibliothèque. Direction, dans un instant, la librairie L'Écriture. À vos creusons.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre continue, il est l'heure des libraires et nous partons chez Anne Burzinski, librairie L'Écriture à Vaucresson.
Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Alors deux coups de cœur aujourd'hui, je vous écoute.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse déjà. Je tiens absolument à vous en reparler parce qu'il y a l'exposition de Vivienne Mayer au musée du Luxembourg et d'ailleurs courez-y parce que c'est génial. Et j'aime beaucoup Gaëlle Josse, j'aime la sensibilité de son écriture, j'aime qu'elle n'en fasse pas dans la fioriture, elle est vraiment dans une écriture pure. Et là, c'est particulièrement le cas dans ce livre où elle va nous parler de qui était Vivienne Mayer, cette photographe qui finalement ne l'a pas été de son vivant et qui a une histoire qui est fascinante en elle-même, qui était une personnalité ambivalente avec ses côtés positifs et ses côtés plutôt glauques finalement. Et elle nous raconte ça tellement bien, avec tellement de finesse, que vous avez l'impression de la connaître un peu mieux, donc à lire si possible avant d'aller à l'exposition, parce que c'est un vrai éclairage. Et voilà, j'ai une tendresse particulière pour Gaëlle Josse, j'aime l'écrivain, j'aime ses livres, et donc je vous conseille énormément de découvrir cette petite pépite littéraire.
Une femme en contre-jour, c'est en version poche, il est sorti il y a longtemps, en grand format?
En grand format, ça fait déjà bien 3 ans au moins, c'était aux éditions Noir sur Blanc.
C'est vrai que Gaëlle Josse, en plus, ça va vite, quoi. C'est des romans courts, toujours un peu comme ça, rapides.
Bah, en fait, je ne sais pas comment elle fait pour capter les personnes ou pour capter les émotions aussi bien. Elle avait fait aussi sur L'ombre de nos nuits, sur Georges de la Tour. Pareil, tout en finesse, on le dévore. On a l'impression d'être très intelligent parce que c'est très facile à lire. C'est comme ça en un clin d'œil. Et pourtant, on a été enveloppé, on a appris énormément de choses et on s'est régalé, en fait.
Parfait. Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse chez J'ai lu la vie de Vivienne Mayer, finalement. Et puis, un deuxième coup de cœur, c'est Michael Christie, canadien, et le livre s'appelle « Lorsque le dernier arbre » chez Albin Michel. Stan Rigaud, à la librairie Lamartine, nous en a déjà parlé, mais comme on l'adore aussi,
Faites-vous plaisir, c'est ça aussi, les livres, la vie des livres, c'est être défendu de tous les côtés.
Ouais, c'est un peu ça, en fait, c'est j'enfonce le clou. Après, c'est un premier roman, parce que Michael Christie il avait écrit un recueil de nouvelles, si je ne m'abuse, avant, mais pas d'autres romans jusque-là, en tout cas pas traduits. Donc j'enfonce le clou, parce que finalement, on n'entend pas parler tant que ça, en dehors des coups de cœur de libraire et des succès d'estime. Et pourtant, quel livre ? C'est un vrai roman fresque qui va se passer sur plusieurs générations, de 1908 à quasiment... Enfin, voilà, jusqu'aux années 2000. Et à chaque fois, on suit différentes personnes d'une même famille qui, évidemment, n'ont pas du tout vécu les mêmes choses et pas du tout à la même époque. Mais ils ont tous en commun, en dehors d'être de la même famille, d'avoir un lien avec les arbres et les forêts, qui est très prégnant. Et pas du tout le même genre de lien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait son business en fait en coupant les arbres et en vendant le bois. Mais on a aussi des personnes qui ont été militantes pour sauver les arbres. Et on a aussi une dendrologue, j'ai découvert ce métier, donc botaniste spécialisée des arbres. Et en fait, voilà, c'est des portraits de vie extraordinaires, c'est un roman familial, c'est un roman fresque, c'est la nature, c'est tout. En fait, c'est des personnages au cordeau, c'est une vraie découverte d'écriture. Moi, j'ai souligné 3000 phrases dans mon livre. Enfin, c'est un vrai régal, ça a du souffle et c'est une vraie découverte.
Ah, vous êtes du genre à souligner.
Ouais, moi, je suis du genre à souligner. Je le faisais pas trop avant, en fait, je recopiais. Et en fait, depuis quelques temps, je souligne parce qu'il faudrait que je recopie tout dans les livres que je lis en ce moment. Donc du coup, bah, je souligne au critérium parce que j'aime pas trop au stylo, mais je souligne et après je relis, je garde. Voilà. Et du coup, rappelons justement le nom de la traductrice. Je veux pas me tromper, c'est Sarah Gursel.
Parfait. Voilà. Toujours les traducteurs et traductrices, pas les oublier. Donc, Lorsque le dernier arbre, Michael Christie, c'est chez Albin Michel, et puis Une femme en contre-jour, Gaëlle Josse, chez J'ai lu. Merci beaucoup, Anne.
Avec plaisir, merci Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Jean Tellet. Jean, je suis sûr que vous adorez les libraires et que vous adorez les rencontres.
Bien sûr que c'est important. Les libraires sont des gens qui aiment les livres, qui en parlent. Et moi, j'aime bien quand je vais dans des librairies puis que je vois des étiquettes, des fois, sur mes livres. Où,
ah oui, les
coups de cœur des vendeurs et tout. Et c'est des endroits où on est bien. Dans une librairie, c'est vraiment bien que ça existe, ça.
Et on passe au rayon bande dessinée de la librairie, justement, avec Sébastien Bordenave qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour Jean.
Gentelet, bonjour Sébastien Bordenave.
Bonjour à tous.
Alors, deux albums aujourd'hui.
Oui, voilà, deux BD dans deux styles très différents. Soit vous avez envie d'un plaid en cachemire accompagné d'un chocolat chaud, soit vous avez envie d'un débat pro-antivax sous tequila paf. À vous de choisir.
Oui, oh.
Donc la première BD est donc d'une douceur apaisante. C'est La Dame Blanche chez Le Lombard. C'est l'histoire d'Estelle, une jolie infirmière en maison de retraite qui bichonne ses pensionnaires. Elle tente de faire comprendre son métier à ses plans Tinder. Elle leur dit... Je passe mes journées à m'occuper d'eux, je les soigne, je les nourris, je les lave, je les fais rire, je les prends dans mes bras. Et puis d'un coup, ils partent. C'est ce qui arrive à Madame Suzanne. Alors, pour la garder un peu auprès d'elle, Estelle garde les boucles d'oreilles de la vieille dame, une façon de la faire vivre encore un peu dans sa mémoire. Alors, est-ce que Estelle s'investit trop émotionnellement dans son métier ? Par exemple, elle récupère une Nintendo oubliée d'une petite fille qui visitait son papy. Elle avait promis de discuter avec lui avec la console, mais comme elle ne tient pas sa promesse, Estelle la remplace dans une douce conversation virtuelle pour qu'il ne soit pas totalement seul, pour qu'il parte plus apaisé. Exactement, cette BD a le goût de la tristesse, ça a le goût du désespoir, mais en fait, ça a juste le goût de la vie. J'ai fait un test grandeur nature sur la BD, je l'ai fait lire à ma belle-fille, élève en école d'infirmière, très impliquée auprès des personnes âgées. Elle m'a répondu sur un post-it, j'ai tout lu d'un coup, hier soir, c'était trop bien, merci pour une fois, elle a lâché TikTok. C'est une BD de Quentin Zution, ça s'appelle La Dame Blanche.
Parfait. Deuxième BD, Mescal, donc rien à voir. Beaucoup plus rock'n'roll.
Ouais, même mariachi sous acide, je dirais. Vananka est un mix entre John
mariachi
Travolta...
Mariachi sous acide, mariachi. C'est beau comme du Jean Tellet, ça.
C'est un beau compliment. Vananka est donc le personnage principal. C'est un mix entre John Travolta et Bashung, costume noir, cravate noire et chemise blanche. Cette dernière ne va pas rester longtemps immaculée. Après le suicide de sa mère, un huissier vient l'expulser. Il est criblé de dettes. S'ensuit une explication franche à base de coups de guitare avec lui. policiers. Notre héros part pour le Mexique. Il va croiser une bombe latina sexy propriétaire de deux pitbulls, Zapata et Chavez. Dans la BD, on va croiser un agent fédéral américain de petite taille qui lutte contre la drogue, des bikers vikings surmusclés, un petit garçon non-voyant pratiquant le chamanisme, des machettes, des fusillades, ça pétarade à tout va, le tout sublimé par un graphisme aussi doré, chaud et lumineux que le premier album était bleu et froid, mais superbement réconfortant. Voilà donc deux très très beaux albums, tant par le dessin que par le déroulé du scénario.
Parfait, et vous nous rappelez les titres ?
Eh bien, une BD pastel douce et émouvante publiée chez Le Lombard, c'est La Dame Blanche de Quentin Zution, et une BD rock chaude et apocalyptique, Mescal de Kevin Stevens et Jeff, que je vous offre avec plaisir.
Oh, merci.
On se quitte avec une citation BD cruelle du chat de Gueuluc. Il dit « Quand un végétarien victime d'un AVC finit en légumes, pour lui c'est une consécration. » Voilà. Bon dimanche.
Et Jean, on oublie que vous avez commencé par la BD.
Ouais, j'en ai fait pendant 11 ans, mais c'est vrai qu'en ce moment la bande dessinée est vachement bien. Alors ça fait râler mes copains des dessinateurs, mais souvent que je trouve que la génération qui a suivi la mienne est plus talentueuse que la mienne. Sûrement que nous, on a ouvert des portes, mais là, il y a en bande dessinée, il y a des trucs d'un niveau, c'est très, 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 très intéressant.
Ça vous manque pas ?
Non, pas du tout. J'étais ravi de faire ça, ça m'a plu et tout. Mais voilà, c'est la page qui est tournée. Et d'ailleurs, à propos de BD, il y a Crénon Baudelaire qui est en train de d'être adapté. Dessiné par Dominique Gély. Il en fait 3 tomes de 150 pages. Putain, c'est vachement bien.
La sagesse de Jean Tellet. Azincourt par temps de pluie, c'est chez Miel et Barreau. Merci beaucoup Jean Tellet.
Oh, merci à vous Nicolas. Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.